Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de partager avec vous ce message ce matin. Parce que ceux qui étaient là il y a 3 semaines, vous vous rappelez que j'avais prévu quelque chose et puis c'est pas ce qui s'est passé. Donc cette fois-ci, je vais avoir l'occasion de le faire avec vous et je pense que c'est pas pour rien que Dieu avait décalé les choses. Le texte que j'aimerais lire avec vous en introduction, c'est dans le psaume 127. On va lire les 2 premiers versets de ce psaume. Psaume 127, versets 1 et 2. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien ce verset, ou au moins le début, et sauraient presque le réciter par cœur. Il nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez le matin, de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Est-ce que vous avez des projets dans la vie? Quelques-uns, peut-être pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tabou d'en avoir. Et c'est pas grave si vous aimez plus vivre au jour le jour et pas faire trop grands projets. Mais j'aimerais vous parler justement de faire des projets ce matin et de la façon dont on doit faire des projets. Pendant que je préparais ce message, non seulement je creusais la parole de Dieu, mais parfois j'aimais aussi regarder un petit peu, chercher ce que d'autres prédicateurs ont pu dire sur le sujet. Et comme ça, en recherchant, je suis tombé sur un article sur un site chrétien qui nous expliquait comment réussir dans ses projets. Et il nous disait, voilà les 4 clés pour réussir dans ses projets et ses entreprises. Le premier, c'est qu'il faut que tu sois un bon planificateur ou une bonne planificatrice. Deuxième, c'est de prêter l'oreille à Dieu et aux autres. Troisième, n'aie pas peur d'investir et d'épargner. Et quatrième, sois une personne juste et intègre. C'est des bons conseils en soi, non? Trouvez pas? Mais moi, ce qui m'a un peu gêné quand j'ai lu cet article, c'est que... Alors, il y avait des versets parsemés un peu partout qui soutenaient ce que nous présentait l'auteur, mais il n'y avait aucun verset qui parlait explicitement de Dieu. Même dans les conseils que je vous ai cités, il y a dans le premier, il y a un moment, il y a une phrase qui fait un peu allusion parce qu'elle dit « Tant qu'il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans la volonté de Dieu pour toi, tu dois penser à planifier tes actions selon la direction du Seigneur. » Alors, tant que ça fait partie de la volonté de Dieu, bon, voilà, juste une petite allusion. Mais ça veut dire quoi que ça fasse partie de la volonté du Seigneur? Et puis le deuxième, là, il faut prêter l'oreille à Dieu et aux autres. Et limite, à Dieu, c'est presque entre parenthèses dans le truc. Tout le paragraphe est sur le fait que c'est important d'écouter les conseils autour de soi et pas de se renfermer. Oui, mais entre écouter Dieu et les autres, il y a quand même une différence importante. Et quand je suis arrivé à la fin de cet article, j'étais un peu perplexe par rapport à son contenu. Et je me demandais si au final, même les versets qu'on trouvait à l'intérieur, c'était pas juste un peu une sorte d'alibi, une excuse pour justifier que c'est un article quand même chrétien, qui mérite d'être sur un site chrétien. Mais au final, le contenu est exactement le même, globalement, que ce qu'on trouverait sur n'importe quel autre site d'entrepreneuriat qui vous apprend comment monter votre entreprise, vous lancer dans des projets, un site de développement personnel ou de coaching, comme ça, qui vous donnerait exactement les mêmes choses. Et il me semblait qu'il manquait quand même quelque chose d'essentiel à cet article. Et c'est sur ça que je voudrais me pencher avec vous ce matin, et c'est ce qu'on a lu dans ces 2 premiers versets du psaume 127. Donc j'aimerais qu'on se penche ensemble sur ces 2 versets et sur 3 choses que nous dit ces quelques versets. Parce qu'il n'y a que 2 versets, c'est pas grand-chose, mais pourtant, il y a des points très importants pour la réussite de nos projets, j'ai envie de dire. Donc, le psaume commence par ces paroles. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En fait, dans ce texte, Dieu nous met en garde déjà pour commencer contre les projets insensés. Alors, qu'est-ce que j'appelle des projets insensés? C'est pas le fait de se lancer dans un projet qui est pas raisonnable du tout, qui nous semble pas tenir debout, quelque chose comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, ou plus subtil peut-être. Un projet insensé, c'est un projet qui est fait sans se soucier de ce que Dieu en pense. C'est un projet dans lequel on se lance comme si tout était sous notre contrôle. Un projet qu'on va démarrer en se disant, c'est bon, moi j'ai une idée en tête, je me lance, je vais faire ça, je vais accomplir tout ce qu'il faut pour arriver au but que je me suis fixé, mais sans me préoccuper de savoir si est-ce que Dieu est avec moi dans ce que j'entreprends. C'est justement cette erreur-là, c'est l'erreur qu'a fait le riche dans la parabole de Jésus dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12, dans les versets 13 à 21, on voit la foule qui pose des questions à Jésus et Jésus qui leur répond par une parabole qu'on va lire ensemble. Donc Luc chapitre 12, à partir du verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Voilà, des problèmes vraiment de l'époque qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, donc bon, si vous y retrouvez pas dedans, c'est pas grave. Non. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, le riche de cette parabole, effectivement, ses terrains avaient beaucoup rapporté, il avait énormément amassé et il a fait ce que n'importe qui ferait, c'est se dire avec tout ce que j'ai maintenant il va falloir que j'adapte mes greniers, là j'ai plus assez pour stocker tout ce que j'avais, donc on va faire des plus grands, on va stocker tout ça et avec tout ça je vais pouvoir vivre pendant des années tranquillement, en étant à l'abri du besoin, sans avoir plus besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Mais malheureusement pour lui, c'est pas ce que Dieu avait prévu pour lui, et c'est un peu le genre d'attitude que nous aussi on peut avoir. Pas forcément parce qu'on a eu des champs qui ont rapporté énormément, mais ça y est, je suis arrivé à la retraite, je vais enfin pouvoir faire tout ce que je veux. Et puis, parfois, la retraite, elle est de courte durée. Ou alors, ça y est, j'ai enfin acheté ma maison, j'ai plus à me préoccuper de toutes sortes de problèmes, j'ai fini de payer le crédit de ma maison. Ça y est, là, je vais avoir un peu de calme, je vais pouvoir avoir un peu plus d'assurance, de sécurité. Et puis, il y a un problème qui tombe, il y a une maladie, un deuil. Souvent, quand on fait nos plans, on se projette comme ça, mais le problème, c'est que tous les plans qu'on peut former, ça reste des désirs, des choses auxquelles on aspire, mais sur lesquelles on n'a pas réellement le contrôle. Là, ce riche, il avait fait quelque chose qui nous semblerait raisonnable humainement parlant, mais il avait oublié un élément crucial de l'équation, c'est que sa propre vie ne lui appartenait pas. Tous les projets qu'il a élaborés, au final, ils se sont écroulés. Ou peut-être qu'ils ont abouti, les greniers ont été construits, la réserve a été stockée, mais ce n'est pas lui qui en a profité derrière. Et le premier pas pour éviter cette erreur, je pense, ça va être déjà de faire preuve d'humilité. Contrairement à cet homme qui pensait avoir tout sous son contrôle, tout entre ses mains, c'est qu'il va falloir reconnaître le peu de contrôle que nous avons. C'est plus facile ou plus difficile à accepter pour certains que pour d'autres, mais ça reste indispensable de se faire à l'idée que nos projets, comme j'ai dit, ce ne sont que des désirs, jamais des certitudes. C'est pas parce que j'ai lancé l'achat de ma maison, que j'ai signé chez le notaire déjà le sous-sein, voilà, merci, le mot m'échappait. C'est pas parce que j'ai signé le sous-sein que j'ai commencé à faire les démarches auprès de la banque que tout va aboutir derrière. Peut-être que Dieu ne me veut pas là. Peut-être que derrière, la banque va me refuser le crédit. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, la vente va tomber à l'eau. Peut-être que le nouvel emploi que j'ai en tête là et pour lequel j'ai passé les entretiens, ça s'est très bien passé, ça va peut-être me passer sous le nez parce que c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. C'est pas parce que moi je commence à être convaincu que ce dans quoi je me lance, c'est exactement ce qu'il me faut, que c'est ce qui va réellement se passer derrière. Je sais que pour certains d'entre nous, parfois, qui sont un peu en proie à l'anxiété ou à l'inquiétude, c'est difficile de lâcher le contrôle. Essayer de retrouver le contrôle sur les choses, c'est une façon de nous rassurer. Se dire, non, là, j'ai des doutes sur cette situation, alors je vais faire tout ce que je peux pour contrôler les choses, pour m'assurer que c'est moi qui suis aux commandes. Mais même si on fait toutes ces choses-là, ça ne reste qu'une illusion. Derrière, il va falloir accepter le fait que le contrôle, on ne l'a pas, quoi que l'on fasse. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, dans les versets 13 à 15, Jacques s'adresse encore à ceux à qui la vie a l'air de sourire financièrement, encore une fois. Peut-être parce que ceux qui ont de l'argent ont facilement tendance à s'appuyer dessus et à y trouver leur sécurité. Et Jacques leur dit au chapitre 4, donc, versets 13 à 15, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Alors trafiquer, c'est pas dans un sens négatif comme aujourd'hui, hein, c'est on va faire du commerce, quoi. Donc, nous allons faire du commerce, vendre des choses, et puis on va gagner de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. En fait, il y a deux choses que Dieu attend de nous, ou deux erreurs qu'on pourrait faire, c'est un peu la réciproque si on ne respecte pas ces principes-là, qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. C'est que nous ne devons pas nous lancer dans des projets qui ne sont pas ceux que Dieu a prévus pour nous, mais que nous devons nous lancer dans ceux qu'il a prévus. Nous ne devons pas faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, mais nous devons faire ce qu'il a prévu que nous fassions. On ne peut pas se mettre que d'un côté, on ne peut pas se dire « je ne vais rien faire comme ça, j'éviterai de faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse ». On ne peut pas dire « je vais me lancer dans tous les projets qui me passent sous la main, tout ce qui me vient à l'esprit, comme ça au moins il y aura ceux de Dieu dedans ». Non. Il y a des projets que Dieu a prévus, c'est dans ceux-là qu'il faut que je me lance, et tout le reste, il ne faut pas que je m'y lance parce que ça va aller à l'échec. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, justement, Salomon parle de ce conflit qu'il y a entre le fait que nous nous projetions dans des choses, mais que derrière, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Salomon dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et quelques versets plus loin, au verset 7, il dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, ça sera peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais c'est comme si nous retrouvions une forme de contrôle. Pas parce que c'est nous qui allons décider de ce qui se fait, mais parce qu'on a enfin réalisé qui est réellement au contrôle et qu'en étant soumis à ce Dieu qui a toutes choses entre ses mains, alors les projets vont avancer comme ils le doivent. Mais ça implique de faire confiance à Dieu, de placer notre confiance en lui réellement. Mais cette confiance, elle est justifiée parce que elle nous permet de savoir que ce que Dieu entreprend, il le réussit. Ce que Dieu a décidé, il l'accomplit. Et si nous nous lançons dans un projet en sachant que ce projet est entre les mains de Dieu, alors effectivement ce projet réussira. La parole de Dieu nous le souligne à de nombreuses reprises que Dieu lui-même forme des projets. Il n'y a pas que nous qui envisageons des choses, qui planifions des choses, qui décidons de ce qui va se passer, de ce qu'on aimerait qu'il se passe en tout cas. Non, Dieu aussi a des projets. Dans Jérémie au chapitre 29 au verset 11, je suis sûr que la plupart vous connaissez ce verset par cœur, vous l'avez peut-être même affiché sur les murs de la maison. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour nous et de bons projets. Donc, ça donne envie d'entrer dans ces projets-là. Ça serait bête de passer à côté. Sauf que ces projets qu'il a pour nous, ça n'implique pas que Dieu lui-même. Ce n'est pas Dieu tout seul qui va les faire, ces projets. En fait, Dieu a des projets pour nous, mais c'est des projets dans lesquels il veut qu'on rentre. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre Paul nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a formé des projets, et ces projets, il veut qu'on rentre dedans et qu'on les mette en pratique. Dieu, il a prévu que nous accomplissions certaines œuvres, certaines actions, et ce que nous devons rechercher, c'est à entrer dans ces actions-là, c'est à agir selon ce que Dieu a déjà prévu pour nous. On ne peut pas simplement s'asseoir en disant « Bon, ben, ok, je veux voir les projets de Dieu s'accomplir dans ma vie, alors vas-y Seigneur, fais ce que tu veux, et puis moi j'attends. » Non, Dieu veut nous associer à ces projets, et on doit s'engager dedans. C'est, quand on lit le verset, ça nous donne l'impression que ça parle de projets purement spirituels, de choses qui sont vraiment juste du domaine de la prière, etc. Mais je pense que tout est spirituel dans le royaume de Dieu. Même les plus petites choses, les choses les plus insignifiantes, Dieu y prête attention. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 29, c'est Jésus qui disait que « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. » Même la mort des petits oiseaux, Dieu est aux commandes et sait quand chaque être vivant sur la terre va perdre la vie. Alors, si on continue notre psaume au verset suivant, après avoir vu qu'il est important que Dieu soit aux commandes du projet, on voit qu'il nous est dit « En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. » Ce que nous montre ce verset-là, c'est le peu d'importance que nos actions ont. Quand on forme des projets, on établit une liste d'actions qu'il va y avoir à faire pour remplir ce projet. On commence à se faire un plan de bataille. On se dit, il va falloir commencer par ça. Ensuite, je vais pouvoir me lancer dans telle étape, l'une après l'autre. Et parfois, ces étapes-là, ça implique des efforts de notre part. Mais ces efforts-là, finalement, risquent de ne pas mener bien loin. Il le dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous faites énormément d'efforts, mais ça ne vous rapporte rien. Dans Proverbe 21, au verset 1, Salomon, encore une fois, dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Le roi, pourtant, c'est l'image quand même d'un homme qui a le pouvoir, qui a le contrôle, qui a la capacité de faire ce qu'il veut. Il donne un ordre et le gouvernement s'exécute, les soldats s'exécutent, les personnes auxquelles il s'est adressé doivent accomplir la volonté du roi. Et pourtant, Salomon nous dit que même ce roi, il est soumis à la volonté de Dieu. Il ne peut rien faire sans que Dieu l'ait décidé. Tous les ordres qu'il pourra donner, ils échoueront si ça ne correspond pas à ce que Dieu voulait. C'est la raison pour laquelle l'ordre des priorités qu'on trouvait dans l'article que je vous ai cité au début me semblait faussé. Parce que, au final, quand je lisais cet article, j'avais l'impression que ça insistait sur l'importance de s'impliquer dans le projet qu'on a, de faire des efforts, de bien planifier les choses, de bien organiser, et d'avoir une certaine éthique du travail dedans. Et c'est le genre de conseil, comme je disais, qu'on trouve complètement dans le monde. Parfois même poussé un peu à l'extrême et d'une manière déséquilibrée, hein, parce que certains, parfois, ils s'impliquent tellement dans leur travail que c'est aux dépens de leur famille ou de leur santé, etc. Mais là, le verset nous dit que peu importe les efforts que je fais, si je lutte par mes propres forces, ça ne servira à rien, c'est complètement vain. On l'a entendu ce matin, si vous avez prêté attention aux dons spirituels qu'on a eus. Dieu l'a dit, si tu te... T'es à sec parce que tu luttes depuis trop longtemps avec tes propres forces au lieu de te reposer sur moi. C'est exactement ce qu'on voit dans ce verset, c'est que si je lutte tout seul, si ce n'est pas Dieu qui fait, alors c'est en vain tout ce que je fais, moi. Dans Proverbes au chapitre 16, au verset 4, il nous est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a ces projets-là, et rien ne peut aller à l'encontre de ces projets parce que lui a déjà tout pris en compte. Même nos erreurs font partie de son plan. C'est parfois étonnant à dire parce qu'on dit, mais là, je n'ai pas accompli la volonté de Dieu. Oh, mince, qu'est-ce que Dieu va faire là? Si je n'ai pas fait ce qu'il m'avait demandé, j'ai mis tout le plan de Dieu par terre. Non, parce que Dieu savait déjà que de toute façon, dans ce cas-là, ben, tu n'allais pas suivre sa volonté. Et il a pris en compte cela pour accomplir ce qu'il voulait. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères au marchand ismaélite, est-ce que vous croyez que les frères de Joseph ont pu rentrer à la maison en disant « C'est bon papa, on a vendu Joseph, on a fait la volonté de Dieu ?» Je crois que quand on voit comment ils ont présenté les choses à Jacob, avec la tunique déchirée, « Oh, il a dû se faire manger par une bête féroce », c'est qu'ils savaient très bien que ce qu'ils avaient fait, ça ne devait pas trop s'inscrire dans le plan que Dieu avait prévu pour eux. Et pourtant, quelques chapitres plus loin, on arrive au moment où toute la famille est de nouveau réunie, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit que même la faute des frères de Joseph faisait partie du plan de Dieu. Même les accusations mensongères de la femme de Potiphar qui ont envoyé Joseph en prison faisaient partie du plan de Dieu. Même le fait que les chansons du roi oublient Joseph pendant 2 ans dans la prison, après que Joseph ait expliqué son rêve, ça faisait partie du plan de Dieu. Toutes ces choses-là qui se sont acharnées contre Joseph faisaient partie du plan de Dieu. Alors que lui-même, quand il était encore tout jeune, adolescent, il avait eu ses rêves où il s'était vu à la tête de la famille, à la tête du monde entier. Et puis, non, les choses avaient l'air d'aller dans le sens inverse, mais non, toutes ces choses-là faisaient partie du plan de Dieu, puisque au moment voulu, au moment décidé par Dieu, Joseph, d'un seul coup, il s'est retrouvé à passer du fond de la prison au rôle de premier ministre de toute l'Égypte, du seul pays dans lequel il restait encore à manger, dans lequel il restait encore des réserves pour aller nourrir tous les pays environnants. Oui, même nos erreurs, Dieu les a prises en compte. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il nous approuve quand on les commet. Ça n'empêchera pas Dieu de nous discipliner si on n'a pas suivi sa volonté, même si lui utilisait ça pour accomplir son plan derrière. Dieu tolère nos erreurs parce qu'elles vont servir à son but. Mais ça ne change rien à notre culpabilité de nous être détournés de Dieu. D'ailleurs, le plan du diable à l'égard de Jésus, c'est l'exemple ultime. Le diable, il a tout fait pour détourner Jésus de sa mission. Il a essayé de le faire mourir quand il était encore qu'un enfant, un bébé. Il a fallu que Joseph et Marie aillent se cacher en Égypte pendant un temps. Il a essayé de faire chuter Jésus lors de la tentation dans le désert en lui proposant des alternatives, des choses qui pourraient un petit peu court-circuiter le plan de Dieu. Et puis quand ça ne marchait pas, ben, derrière il a excité la jalousie des pharisiens et puis il a poussé Judas à trahir Jésus. Une fois que Jésus a été arrêté, il a poussé même les Romains à s'acharner sur Jésus, à le torturer pour l'amener jusqu'à la mort. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour exaucer les prophéties que Dieu avait données. Vous vous rappelez ces prophéties d'Ésaïe, hein, c'est qu'il a été maltraité, méprisé pour nous. Il a souffert à cause de nos propres fautes. En fait, tout ce que le diable s'acharnait à faire contre Jésus, Dieu l'avait déjà prévu. Ça faisait partie du plan de Dieu. Et c'est ce qui a conduit à cette grande victoire de Dieu sur le diable. Que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité derrière. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait prévu, alors que pourtant, je ne pense pas que le but du diable c'était de faciliter le plan de Dieu et de donner un moyen de salut aux hommes, loin de là. C'était plutôt tout le contraire. Alors voilà, le monde met énormément l'accent sur l'importance de nos choix, sur nos capacités, nos efforts lorsqu'on se lance dans des projets. Tout se mérite. Il faut se donner à fond là, pour espérer décrocher toutes sortes de privilèges, de confort. Mais en réalité, quand le monde nous vend ça, Ce que le monde nous vend, c'est, j'appelais ça, c'est un culte ou une crainte de l'homme. C'est l'homme qui est mis au centre, que ce soit moi-même, parce que, voilà, il faut que j'accomplisse les choses par mes propres forces, que je me mette en avant, ou que l'homme en question, ce soit les autres. Soit parce que je peux m'appuyer sur eux et réussir grâce à eux, ou au contraire, parce que je vais avoir la peur de ce que les autres peuvent me faire subir. Henri Blocher, qui est un grand théologien, disait dans un de ses livres que la crainte de Dieu, c'est l'image du bien, mais que l'image du mal, c'est pas le fait de ne pas craindre Dieu, c'est de craindre l'homme. C'est ce qu'on trouve notamment dans le livre de Jérémie, au chapitre 17 et au verset 5, lorsque Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Parce que le cœur de l'homme, en fait, il balance entre les deux. Soit je m'attache à Dieu, je crains Dieu, soit je vais craindre l'homme, soit je vais accorder de l'importance à l'homme. Et la Bible nous montre à quel point cette vision-là, elle est fausse et elle est vaine. Sans l'approbation de Dieu, ben nos efforts, ils n'apportent rien. Nos projets ne vont pas réussir si ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais encore une fois, voilà, il faut faire attention aussi à faire la volonté de Dieu de notre plein gré et pas à notre insu. Parce que parfois, le fait que nos projets aient l'air de réussir humainement parlant, c'est pas non plus un synonyme que Dieu les approuve en tant que tels. Parfois, Dieu les tolère, mais ce qui nous semble être une réussite pour nous est un échec devant Dieu parce qu'on passe à côté de quelque chose d'autre que Dieu avait en réserve pour nous, de probablement meilleur. Regardez Judas. Quand il a livré Jésus, le plan qu'il avait formé, là, de livrer Jésus et de se faire un peu d'argent au passage, ça a marché. Il a réussi dans son entreprise. Il est reparti avec une bourse pleine de 30 pièces d'argent. Mais est-ce que vous croyez que derrière, il a senti qu'il avait eu du succès dans ce qu'il avait prévu ? Non, il s'est rendu compte qu'il avait eu tort de se lancer dans ce projet-là. Et ça s'est très mal terminé pour lui. Mais parfois, c'est un piège qu'on peut avoir nous-mêmes, de se dire, j'ai réussi là dans ce projet-là, c'est que Dieu était avec moi, c'est bon, je peux continuer et aller dans cette direction, sans m'être réellement placé devant Dieu pour lui demander si c'était ce qu'il voulait. Dans l'Ancien Testament, du temps du roi Ézéchias, il y a le roi d'Assyrie qui a voulu envahir le pays d'Israël. Et il y a son envoyé Rabshaké qui était au pied des murailles, là, qui s'adressait au peuple d'Israël et qui disait notamment, c'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, au verset 25, il leur dit « Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le !» Parce que là, il avait remporté déjà plein de victoires sur plein d'autres pays aux alentours. Et puis quand il arrive devant les Israélites, le meilleur moyen de leur casser le moral, c'est de leur dire « Mais vous avez bien vu que j'ai réussi jusque-là, donc si j'ai réussi, c'est parce que l'Éternel était avec moi, votre Dieu, là, il ne m'a pas empêché de faire le reste. Donc il ne m'empêchera pas non plus de piller votre ville, de tout mettre à sac si vous ne vous rendez pas tout de suite. » D'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais un petit peu plus loin, il leur dit « Mais d'ailleurs, les dieux des autres peuples ne les ont pas délivrés, donc votre Dieu, il ne pourra pas faire mieux. Hein. Quand moi je vais attaquer la ville, si vous n'êtes pas rendu, vous aurez beau crier à l'Éternel, vous verrez qu'il ne se passera rien. » L'histoire lui a donné tort. Parce que le lendemain, le roi d'Assyrie, il a dû plier bagages, faire demi-tour et repartir parce que l'ange de l'Éternel était passé dans le camp des Assyriens et avait fait mourir 185 000 hommes. C'est même pas les Israélites qui étaient sortis pour aller combattre. Et Dieu a prouvé ce jour-là que ce que Rabshaké avait proclamé au peuple d'Israël pour les impressionner, c'était complètement faux. Aller dire « j'ai du succès, c'est la preuve que Dieu m'approuve », c'est... Non, ça prouve rien du tout. Dieu laisse certaines personnes réussir, entre guillemets, d'un point de vue humain dans leur projet, mais ça n'empêche pas que peut-être que si ces personnes avaient écouté Dieu, ils se seraient lancés dans d'autres projets qui auraient eu beaucoup plus de succès, ou en tout cas, qui auraient eu un véritable succès dans un sens spirituel. J'aimerais terminer par cette dernière phrase du psaume qu'on a lu. Vous avez vu qu'on a vu ceux qui gardent la ville veillent en vain, ceux qui construisent la maison bâtissent en vain si l'Éternel n'est pas avec vous. Et puis d'insister encore plus que les efforts servaient à rien. Vous aurez beau en rajouter davantage, vous levez plus tôt, vous couchez plus tard, ça ne servira à rien. Mais il conclut derrière avec cette phrase, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce que Dieu critique là, en fait, dans tout ce qu'on a lu, ce n'est pas les actions des hommes en tant que telles. Ce ne sont pas les efforts qu'ils font, c'est la mauvaise motivation qu'il y a derrière. C'est le fait que les hommes se lancent dans tous ces projets-là, poussés par toutes sortes de motivations humaines, par l'inquiétude, par l'idée que nos efforts vont nous apporter du succès. Mais Dieu nous dit, lui, qu'il en donne autant à ses bien-aimés. Donc ça veut dire que déjà, tous ceux qui se lancent dans ces projets sans l'Éternel, ce ne sont pas les bien-aimés de Dieu. Au contraire, l'attitude de ceux qui appartiennent à Dieu devrait être différente. Dans Matthieu, au chapitre 6, et dans les versets 25 à 34, il y a ce passage où Jésus nous encourage justement à ne pas nous inquiéter, ne pas nous préoccuper de toutes ces choses qui inquiètent le monde, parce que Dieu est aux commandes et il veille sur nous. Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. » Encore une fois, il aime bien regarder la nature pour nous donner des leçons. Parce que dans la nature, les animaux, les plantes, ils ne se posent pas autant de questions que nous. Donc, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas ? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà la clé de tout ce passage. Tout dans le royaume de Dieu est spirituel, je l'ai dit. Nous, on aime bien parfois séparer. Ça, c'est du matériel, donc il n'y a pas besoin peut-être d'impliquer Dieu là-dedans. Ça, c'est à l'église, c'est spirituel. Non, tout est lié dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'en se concentrant en premier lieu sur les choses spirituelles, Dieu va veiller à ce que le reste aussi s'accomplissent pour notre bien. Dieu pourvoit à tous les besoins, y compris et en particulier les besoins purement terrestres, sans qu'on ait besoin nous-mêmes réellement d'intervenir et de livrer des batailles pour ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en commençant, je faisais allusion au fait que cette prédication, je l'avais préparée pour un autre dimanche. Je l'avais préparée il y a 3 semaines. Et puis, ce dimanche-là, j'avais senti, on va dire, que ça ne collait pas trop, que Dieu m'appelait à partager autre chose. Et puis aujourd'hui, en me préparant pour ce dimanche, je vais ressortir ce que j'avais préparé la dernière fois, normalement. Ça va éviter d'en faire encore une de plus. Non, je rigole. Mais voilà, Dieu m'avait mis quelque chose à cœur, peut-être que c'était pour cette fois-ci, et j'avoue que ce matin, quand j'entendais les dons spirituels, quand j'entendais tout ce qu'on a partagé avant de rentrer dans ce temps-là, ça m'a conforté dans cette idée que Dieu, ce matin, voulait nous rappeler que nos projets, en soi, c'est bien beau de faire des projets, mais il faut que ce soit les siens. Moi, j'avais prévu de faire cette prédication il y a 3 semaines, Dieu avait prévu différemment. Pourtant, cette prédication, je ne peux pas dire que c'est moi tout seul qui avais décidé de ça. Si Dieu me la montre qu'aujourd'hui, elle correspond à ce qu'il avait prévu, c'est que c'est déjà lui qui m'avait donné cette idée-là à l'époque. Mais voilà, le temps n'était pas celui que Dieu avait prévu. Et je remercie Dieu de ce qu'il a conduit les choses pour qu'aujourd'hui, ça soit encore plus adapté que ça l'aurait été si je l'avais partagé il y a 3 semaines. C'est pas que j'ai une sensibilité particulière que je veux mettre en avant, croyez-moi. Je suis très loin de ça. Et je pense que rien que le fait de se pencher sur comment comprendre, écouter la voix de Dieu et entendre ce que Dieu nous dit et comment il veut nous diriger, c'est encore tout un autre sujet qui mériterait une ou voire plusieurs autres prédications de plus. Non, là, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, quand Dieu conduit les choses, on voit que ça se met en place tout seul, qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses et que lui a déjà tout organisé. Après, il veut qu'on entre avec dans ces choses-là. Il veut qu'on soit actif avec lui. Mais ce n'est pas parce que je vais faire plus d'efforts que ça va donner plus de chances que les choses réussissent. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons associés avec lui. Ce que Dieu veut, c'est une attitude de soumission de notre part. Ce que Dieu veut, c'est que simplement, nous nous placions entre ses mains avec un cœur docile en disant « Mais Seigneur, guide-moi, conduis-moi. » Peut-être que Dieu ne nous donnera pas une révélation prophétique, voilà, tu vas te lancer dans tel projet. Non, peut-être que simplement, c'est le simple fait, jour après jour, de vivre en accord avec ce que me dit la parole de Dieu qui fait que Dieu va pouvoir me diriger à mon insu, probablement, et que je vais rentrer dans des projets de Dieu sans même m'en rendre compte. Quand j'ai dit Dieu veut que nous accomplissions les projets qu'il a prévus pour nous et pas ceux qu'il n'a pas prévus, ça ne veut pas dire que chaque jour je dois me placer devant Dieu et m'attendre à avoir une liste là qui s'écrive devant moi, voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, ça, ça, ça et ça, et surtout pas ça, ça et ça. Non. Peut-être que je ne saurais même pas ce que Dieu n'a pas prévu pour moi ou ce que Dieu a prévu pour moi, mais à partir du moment où je suis bien disposé, à partir du moment où j'accepte que Dieu puisse me diriger, ben, il trouvera le moyen de le faire. Lorsque Dieu a du mal à nous conduire, c'est parce que nous sommes de nature rebelle. C'est parce que de nature, on commence déjà à chercher notre intérêt, à chercher ce qui nous plaît, à chercher ce qui va nous apporter du confort, du succès à nos propres yeux. Et là, Dieu a du mal à nous détourner de ce sur quoi on a fixé notre regard. Mais si j'avance en tournant les regards vers Dieu et en me disant ben, « Aujourd'hui, je vais servir Dieu. Tout ce que Dieu met devant moi à faire, je le ferai. » Et ben Dieu va pouvoir simplement me conduire jour après jour et m'aider à rentrer dans ses plans. Et lorsque j'entre dans les plans de Dieu, alors j'ai l'assurance que ces plans auront du succès. Même si, comme Joseph, je vais peut-être passer parfois par des temps qui vont sembler difficiles. Même si, comme Jésus, le plan en question, ça peut m'amener à quelque chose d'horrible à supporter. Même si, peut-être, le plan en question va m'amener à ma mort. Il y a des disciples qui, en servant Dieu, ont été jusqu'au sacrifice. Mais c'était le plan de Dieu. Et je pense que lorsqu'ils vont passer l'éternité avec le Seigneur, ils ne regretteront pas d'avoir suivi le plan de Dieu, même si physiquement, ça a été dur, même si ça a été difficile à accepter lorsqu'ils étaient encore dans l'épreuve. Heureusement, pour beaucoup d'entre nous, Dieu ne permet pas que l'épreuve aille trop loin. Il nous donne les forces qui correspondent aux épreuves qu'il a prévues pour nous. Alors, soyons prêts à soumettre notre cœur à cette volonté que Dieu nous donne, à cette volonté que Dieu a formée pour nous, ces plans qu'il a prévus d'avance, toutes ces bonnes œuvres-là qu'il a établies pour que nous les pratiquions. Dieu a déjà tout placé devant nous. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous acceptions le fait que nous ne sommes plus au contrôle. Il y a un chant que j'aime bien en anglais, c'est pas un chant qu'on chante à l'église, mais qui dit « Seigneur, prends le volant ». Moi, je pourrais peut-être m'occuper de la radio à côté, mais c'est toi qui conduis. Et c'est exactement ça. C'est que pendant longtemps, moi, j'essaie de tenir le volant, j'essaie de conduire, et au final, à chaque fois, je me prends des murs. Mais si c'est toi qui conduis, Seigneur, toi, tu sais suivre la route. Moi, mon rôle, il est accessoire à côté. Je peux faire des toutes petites choses, mais c'est pas moi qui dirige la voiture. Et bien que nous ayons cette attitude-là, jour après jour, dans notre vie. Seigneur, c'est toi qui conduis. Moi, je suis acteur avec toi, mais finalement, je suis que témoin de ce que tu fais. C'est pas moi qui ai pensé, qui ai inventé tel projet. C'est pas moi qui ai mis en place ce projet-là. C'est toi qui l'as lancé. Alors, ça va se faire tout seul. Et si c'est pas toi qui l'as lancé, ben, tu l'arrêteras. Peu importe, du moment que c'est toi qui guides, je te fais confiance. Amen. Oui, Seigneur, je te loue de ce que c'est vrai que c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui contrôles nos vies, c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. Et combien c'est rassurant. Combien ça nous donne la paix de savoir que nous pouvons simplement nous reposer sur toi. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que à la croix, tu as déjà tout accompli et tu as remporté la victoire sur le diable, tu as remporté la victoire sur le péché et tu nous as laissé une seule chose à faire. Cette chose, c'est de te faire confiance. C'est d'accepter que tu prennes le contrôle de notre vie. C'est d'accepter que tu as déjà payé le prix pour nous et que nous nous réfugions à l'ombre de tes ailes. Nous acceptons que, effectivement, Jésus est mort pour moi. Alors, je peux rentrer dans tes plans. Parce que lui a payé. Moi-même, si j'avais continué par mes propres efforts, j'aurais rien pu faire, Seigneur. Mais si toi, tu es au contrôle, alors tout va aller pour le mieux, tout va aller pour ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous vraiment cette docilité dans notre cœur. Donne-nous de nous laisser enseigner par toi, nous laisser conduire par toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être rebelles, mais à pouvoir toujours suivre ta direction, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Même lorsque tu agis à notre insu. Oui, Seigneur, prends la direction de chacune de nos vies, Seigneur. Sers-toi de nous comme bon te semble, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Amen.